to bless your head.
Radio Campus.
Ah ah ah, laissez-moi rire.
Bless your head.
Radio Campus.
Oh, bien.
Bah, vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de vous.
Ah bon? Bah alors, excusez-moi.
Le choc.
Oh, bah, qu'est-ce que je dirais?
Radio Campus.
Ah bah ça marche.
C'était pas toi.
Vraiment.
Bonne, douce, perverse et diabolique. Une pure perfection.
88.3 FM.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là.
Et bonjour, bienvenue dans Écoute ta fac. Bonjour Marion.
Et bonjour.
Et bonjour Augustin Abran.
Bonjour.
Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis, directeur du département d'études anglophones du laboratoire Rémélis pour l'université d'Orléans.
Exactement.
Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler de la Election Night 2024. De l'élection américaine, bien sûr. Mais juste avant, on va passer un peu de musique et puis on se retrouve bien avec vous juste après pour parler de cette nuit du 5 novembre.
We are not alone, we are not in trouble. Gathered in a circle, each one of us a rebel.
C'était Tristan de Liège avec My Fires, avec Nia Glue 70 Remix. Alors on est dans Écoute ta fac, aujourd'hui on reçoit Augustin Abran, maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis, directeur département d'études anglophones et du laboratoire Rémélis pour l'Université d'Orléans. On parle avec vous, Augustin, de la nuit américaine que vous organisez.
Et comment est née l'idée de l'événement justement de la nuit américaine ?
Disons que les élections américaines, les élections présidentielles aux États-Unis sont en général un événement qui intéresse beaucoup du fait de sa portée internationale. Et dans le cadre de mes cours en civilisation des États-Unis, je travaille évidemment sur la question. Et on a eu l'opportunité, d'ailleurs il y a 2 semaines, de recevoir dans le cadre de mon cours magistral les représentants des démocrates et des républicains de l'étranger. Et la grande motivation des étudiants, je dois dire, m'a motivé moi-même à poursuivre un événement qui soit plus large, qui puisse accueillir au-delà des étudiants de LLCER anglais. La soirée du 5 novembre m'est apparue comme une évidence dans ce sens-là.
Et est-ce que vous pouvez nous présenter comment va se dérouler cette nuit, du coup ?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, c'est dans la soirée du mardi 5 novembre à l'UFR LLSH, Lettres, Langues et Sciences Humaines. L'objectif, c'est d'avoir un moment qui soit à la fois, bien entendu, scientifique, puisqu'on est à l'université, mais également un moment convivial d'accueil et de plaisir, on va dire aussi, étant donné, en plus, les enjeux de cette élection. Donc c'est dans la soirée, à partir de 18h, avec un certain nombre d'événements qui vont être organisés. Je ne sais pas si vous voulez que j'indique dans l'immédiat l'intégralité du programme, mais disons qu'à partir de 18h, on aura un certain nombre d'événements scientifiques, y compris l'inauguration d'une exposition qui a été mise en place par les étudiants de L3, LLCER anglais, du parcours MIR. Et puis, on enchaînera avec une sorte de période de conférence-débat avec des collègues spécialistes. Cette période qui terminera vers 20h, 20h15, sera suivie d'un dîner convivial un peu plus détendu, on va dire, avec de la country music. Et puis aussi un certain nombre de jeux. J'ai l'intention de mettre en place un quiz géant pour faire participer les étudiants, notamment les étudiantes. Et puis ensuite, en deuxième partie de soirée, on posera vraiment la question des enjeux de la démocratie des États-Unis à l'heure actuelle. Par le biais d'une projection d'un documentaire à partir de 21h45 en amphi Peggy. Et en toute fin de soirée, on assistera alors peut-être pas les premiers résultats, puisqu'évidemment il y a quand même un décalage horaire avec les États-Unis, mais du moins, on va dire, tâter l'ambiance aux États-Unis en direct sur CNN.
Ok, c'est un beau programme du coup. Et qui peut venir en soi ? Enfin, il y a forcément des étudiants.
Oui.
Mais est-ce que des personnes extérieures peuvent venir à cette nuit ?
Oui, l'idée c'est d'ouvrir. Alors encore une fois, c'est en lien avec la mission de l'université, directement en lien avec la société civile. C'est-à-dire qu'effectivement, on va accueillir d'abord les étudiants LLCER anglais et tous les étudiantes et les étudiants qui seraient potentiellement intéressés dans leur cursus. Je pense aux étudiants de LEA, aux étudiants d'histoire, aux étudiants de droit et au master droit, politique, communication par exemple. Mais évidemment, c'est un moment qui est ouvert pour les personnalités ou les personnes qui seraient intéressées de l'extérieur. Et je pense notamment aux associations. On va accueillir par exemple l'association Orléans-Wichita, qui travaille justement en collaboration avec la ville de Wichita, qui est jumelée avec Orléans, qui va également permettre de faire venir des gens de la métropole qui sont intéressés par les enjeux de l'élection américaine.
Et quel est l'objectif pour vous en tant que professeur ?
L'objectif, c'est de, encore une fois, en lien avec cette mission de l'université, c'est-à-dire une diffusion du savoir. Par le biais de la vulgarisation des enjeux, et c'est notamment tout l'objectif de la période de conférence-débat qu'on aura en première partie de soirée, de mettre en exergue au grand public et aux étudiants en particulier tous les enjeux de cette élection qui sont majeurs, particulièrement en 2024, parce que en général, les élections américaines nous intéressent parce qu'elles ont un impact très important sur le monde, en réalité, du fait du statut de l'État-nation américain, états-unien plutôt. Et les enjeux sont particulièrement importants en 2024, puisque La société des États-Unis est particulièrement fracturée, particulièrement divisée. On a des candidats qui sont diamétralement opposés, et notamment d'un point de vue géopolitique. Et donc cette question va être très importante. L'idée, c'est effectivement de faire comprendre au plus grand nombre les enjeux majeurs de cette élection, et puis de satisfaire aussi les étudiants, notamment les étudiants de LLCER anglais, qui, je dois le dire, sont particulièrement motivés depuis le début de l'année et particulièrement dynamiques. J'ai été particulièrement impressionné par la pertinence des questions qu'ils ont pu poser justement il y a deux semaines aux représentants des démocrates et des républicains de l'étranger. Leur motivation se ressent, et j'ai aussi envie de leur faire plaisir, mais dans le même temps de montrer aussi le lien qui existe entre les fondamentaux de l'histoire des États-Unis qu'on étudie en cours leur concrétisation dans la société civile américaine aujourd'hui et les enjeux qui correspondent justement à cette élection majeure de 2024.
Et comment vous avez choisi les thématiques abordées durant toute cette soirée ?
Eh bien, en lien avec, encore une fois, les enjeux particuliers de cette élection, il y a des spécificités en 2024 en lien avec la société des États-Unis qui sont particulièrement à mettre en exergue pour cette élection-là. Donc je pense notamment à la question internationale. Évidemment, avec les conflits que l'on connaît aujourd'hui, par exemple la question de l'ONU, la question de l'Europe avec la guerre en Ukraine, évidemment la question du Proche-Orient. Donc les enjeux internationaux sont majeurs. On aura une communication sur la question de la Chine, bien entendu. Donald Trump est particulièrement, incisif avec le pouvoir chinois, du moins dans sa rhétorique politique. Évidemment, la question de la migration, qui est très importante aux États-Unis en ce moment, avec la frontière avec le Mexique, qui est un enjeu majeur de l'élection. La question de l'image aussi. On a une collègue qui est spécialiste de la question de l'image dans ses propres travaux. Et là, on a effectivement un certain nombre d'images particulièrement fortes dans cette élection. Je pense notamment aux photographies qui ont été prises lors de la tentative d'assassinat de Trump il y a quelques semaines. Et l'impact de l'image et l'utilisation, l'exploitation de l'image, y compris à des fins, on va dire, politiques plus ou moins honnête dans le contexte actuel. On voit l'impact, par exemple, d'Elon Musk aussi, et l'importance de l'intelligence artificielle dans l'élection. Donc là, encore une fois, c'est un sujet qu'il faudra aborder. Et puis, bien entendu, la question des droits civiques au sens large, des libertés individuelles, avec évidemment la question de l'IVG aux États-Unis qui pose plus que jamais question, en lien avec également la question des armes à feu, qui sont paradoxalement deux enjeux concomitants en lien avec la question des libertés individuelles, de la Constitution et du fédéralisme, en particulier aux États-Unis.
Et du coup, vous avez travaillé sur l'exposition Women Matters,
oui,
avec vos étudiants. Cette exposition, qu'est-ce qu'elle va contenir ? Est-ce qu'elle va contenir plus des œuvres d'art peinture ou plus... Qu'est-ce qu'elle contient ?
Oui, alors vous l'aurez compris, le titre Women Matter est en lien, c'est un clin d'œil à Black Lives Matter. L'objectif de cette exposition, c'était de faire choisir aux étudiantes et aux étudiants des personnalités féminines aux États-Unis, de l'histoire au sens très large des États-Unis, qui étaient oubliés, on va dire, ou peu connus. Donc on est un petit peu sorti des sentiers battus. Et l'objectif, c'est simplement de présenter ces figures avec des affiches, des affiches d'exposition, avec des éléments biographiques, toute une partie sur les réussites et l'impact dans la vie sociale et sociétale des États-Unis de ces personnalités. Et puis, puisqu'on travail en civilisation et en histoire, l'objectif était de faire choisir aux étudiantes et aux étudiants une source primaire, un document original qui représente, qui incarne en particulier cette personnalité et son impact sur la société des États-Unis. L'affiche contient également une partie analytique de cette source primaire par le biais d'un document audio en fait, qui correspond un peu à un audio guide auquel on pourra avoir accès par un QR code. Donc l'objectif, voilà, c'est de montrer des figures féminines peu connues et pourtant qui ont eu un impact majeur aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis. Et quand je dis féminine, on pense à, voilà, s'identifiant comme de genre féminin, mais en réalité, vous verrez qu'on a un certain nombre de personnalités dont l'identité est particulière et en lien notamment avec ce qu'on fait dans ce parcours, le parcours médiation interculturelle et recherche, en lien avec justement le multiculturalisme, l'interculturalité, et les questions d'identité aux États-Unis en particulier.
Donc cette nuit se continue avec des conférences et des débats. Votre sujet, c'est de l'avortement au port d'armes, fédéralisme et liberté individuelle en question. Pourquoi avoir choisi ce sujet précisément ?
Alors ce sujet, parce que ça me semble particulièrement pertinent dans l'élection de 2024 à deux égards. C'est-à-dire que d'une part, on a la question de l'avortement qui, presque, genre, j'allais dire, d'un point de vue européen, contre toute attente, est au cœur de la présidentielle de 2024. Bon, si on suit l'histoire des États-Unis, y compris l'histoire des États-Unis depuis la légalisation au niveau fédéral de l'avortement en 1973, à travers l'arrêt Roe v. Wade, quand on suit l'histoire des États-Unis, on sait que finalement c'est un droit qui est remis en question depuis finalement sa constitutionnalisation. Et j'ai voulu la mettre en lien avec la question des armes à feu, puisque dans le système idéologique états-unien, le droit à l'autodétermination, le droit d'une femme à disposer de son corps, correspond bien entendu à une liberté individuelle, mais le droit de porter une arme également. Et mettre en confrontation ces deux libertés individuelles qui sont remises en question et défendues au nom d'un même système politique, mais avec des arguments qui sont totalement différents, me semble pertinent. Et ce sera l'occasion, en réalité, de revenir sur les fondements des États-Unis, en particulier la période de la fin du XVIIIe siècle, où on retrouve cette idée d'une démocratie états-unienne fondée sur des droits, des libertés individuelles, mais qui sont avant tout des droits naturels. Et c'est ça qu'on a parfois du mal à saisir d'un point de vue européen, c'est-à-dire des droits qui viennent de la nature, autrement dit de Dieu, y compris le droit de porter une arme, d'où toute la complexité en réalité de ces débats au sein de la société états-unienne. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit.
Et du coup, on continue avec un dîner buffet américain.
Oui.
Comment vous avez sélectionné le buffet ? Est-ce que... on peut avoir un petit aperçu ou pas du tout.
Oui. On est nécessairement un petit peu limité dans les possibilités aussi de ce qu'on peut faire. On n'aura pas, je vous préviens tout de suite, il y aura pas de barbecue dans l'UFR et de rodéo. Mais on aura un certain nombre de sandwich, de mini burger par exemple, et puis aussi pour faire plaisir un peu à tout le monde, sans doute des desserts, des brownies et du popcorn également pour suivre la suite des élections en particulier.
Du coup, lors de cette nuit, il y aura aussi des stands d'associations.
Oui.
Avec quelles associations êtes-vous partenaire ?
Alors, on est partenaire en particulier avec l'association dont je vous parlais tout à l'heure, Orléans-Wichita, qui est une association qui existe dans la métropole d'Orléans, en lien justement avec le jumelage que Orléans a avec la ville de Wichita dans le Kansas, dont on a fêté d'ailleurs les 50 ans l'année dernière. Donc il y aura cette association qui sera une opportunité, en fait, de faire connaître aux étudiants cette association, qui peut être utile parce qu'elle permet d'avoir des contacts directs avec des Américains du Kansas, y compris pour partir par exemple en séjour, en famille d'accueil, et puis pour pratiquer la langue aussi. Il y a un certain nombre de cours, de discussions qui sont mises en place par cette association dans la métropole, et c'est, je pense, une très bonne chose, encore une fois, de faire connaître cette association aux étudiants. Et au grand public au sens large. Ça participe, si vous voulez, de cette idée que le travail de recherche universitaire doit être en lien avec la société civile et en particulier la métropole vibrante d'Orléans. Sinon, par ailleurs, en termes d'association, je suis... Pour l'instant, c'est encore en cours. Hein, je ne vais pas vous spoiler, mais j'essaie de faire venir également, évidemment, le planning familial qui me semble particulièrement indiqué pour la question de l'IVG. Alors, même si en France, évidemment, la question est d'une certaine manière réglée grâce à la constitutionnalisation, c'est toujours une occasion de poser la question du droit des personnes à disposer de leur corps, de la liberté et de la santé sexuelle et affective auprès des étudiants. C'est toujours une opportunité importante, je crois. Et également la valorisation des droits des personnes LGBTQI+, également.
Combien de participants attendez-vous à cette nuit américaine ?
C'est toujours difficile à dire. C'est vrai que c'est une vraie question. Les étudiantes et les étudiants sont motivés. On avait réussi à faire venir à peu près 250 personnes lors de la conférence des Républicains et des Démocrates le 14 octobre. On va dire que j'aimerais bien qu'il y ait à peu près 250 personnes. Idéalement, ce serait bien.
Et comment voyez-vous l'avenir de ce type d'événement à l'université pour plus tard ?
Eh bien, étant donné la motivation des étudiants et des étudiants qui m'a particulièrement surpris et satisfait, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir maintenir de manière pérenne. Alors effectivement, les élections ont lieu que tous les 4 ans, mais voilà, je pense qu'il va falloir multiplier ces événements qui sont à la fois fait pour les étudiantes et les étudiants et ouvert à la société civile, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir rendre pérenne, à mon sens. Oui.
Très bien, mais on vous remercie beaucoup, Augustin Abran, excusez-moi. J'ai cru que je m'étais trompée dans votre prénom. On rappelle, vous êtes maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis, directeur du département d'études anglophones pour l'Université d'Orléans. Alors, on vous le rappelle, hein, c'est le 5 novembre. Le programme de la nuit, en fait, est disponible également sur les réseaux sociaux, j'imagine. Voilà, donc à l'Université d'Orléans, au département. De langue, lettres, sciences humaines. Merci beaucoup. Alors
merci,
nous on va continuer en musique avec un extrait de l'album de Black Lives. L'album s'appelle People on Earth. C'est le deuxième album en fait de ce collectif Black Lives qui, sous l'impulsion en fait de Reggie Washington, un bassiste, et de son épouse Stéphanie, œuvre à l'accomplissement d'un rêve, une utopie musicale et sociale des musiciens et des musiciennes originaires des États-Unis, d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe, unis par un langage commun dans une lutte pour l'égalité et la justice. Voilà le projet de Black Lives. Et on écoute Fink tout de suite.
Think about it. Think about it. And think deep about it. Think really, really deep about it. Like, what are you doing?
Think about it. Think about it. They used to be yours, free time with no fear, daydreams and ideas. The new peers make your media social, putting best faces on moments, keeping up with the Joneses. The firelight grows dimmer with each tweet, uploading automatons to clouds, downloading the zeitgeist, pantomime pictures posted behind closed doors dead, sharing everything when nothing is really yours, sharing everything when nothing is really yours. Free time with no fear, daydreams and ideas. Lessons are learned if chosen. Life is lived when it's open. Make yourself think. Make yourself think.
Open up your mind and think.
Facts
melt like slippery slopes, making the most of your fantasy. Factory thoughts move minds to default settings. Masters of opinion control judgment through screens. Right and wrong used to be yours. Truth and song used to be yours. Find what's left, think power to reality. Put your mind where it used to be. Free time with no fear, daydreams and ideas. Lessons are learned if chosen. Life is lived when it's open. Make yourself think, make yourself think. Put your mind where it used to be. Free time with no fear, daydreams and ideas. Lessons are learned if chosen. Life is lived when it's open.
Open up your mind and think.
Sometimes stranger than fiction. Followers following fan pages, doing what's told, buying what's sold. Repeating rumors reposted in selfless selfies. Mirrors reflecting the beautiful empty. Emoji emotions in the digital sea. Android, iPhone, identity. Put your mind where it used to be. Free time with no fear, daydreams and ideas. Lessons are learned if chosen. Life is lived when it's open. Make yourself think. Put your mind where it used to be. Free time with no fear, daydreams and ideas. Lessons are learned if chosen. Life is lived when it's open. Make
open
yourself
your
think.
Let me. Ce sont des mammifères et qui ont pour particularité de pouvoir se sacrifier quand un lion attaque. Il y en a un ou deux qui se sacrifient, qui se font manger sur place, comme ça le reste du troupeau ne sera pas mangé. Et ça, c'est des comportements qui aujourd'hui au Parti Socialiste ne risquent pas de se produire, en tout cas dans le contexte actuel.
Et pendant que les anciens la ramènent, les genoux rament.
Hellcat, un extrait de leur album Mute, sorti récemment chez Glitterbeat Music. Eh bien Marion, on continue dans les élections américaines.
Et oui, on continue avec une interview de Nicolas Labarre, professeur de civilisation américaine à l'université Bordeaux-Montaigne, qui a créé un projet de chronique 2024, une élection américaine avec ses étudiants. Donc on écoute ça tout de suite.
Alors c'est réalisé par nos amis de Radio Campus Bordeaux, qu'on salue au passage. Alors on écoute d'abord l'interview de Nicolas Labarre, puis ensuite il y aura la chronique qu'ils ont réalisée.
Exactement, le premier épisode.
Bonjour à tous, nous recevons Nicolas Labarre, professeur de civilisation américaine à l'université Bordeaux-Montaigne et porteur du projet 2024, une élection américaine. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'on peut présenter ce projet un peu plus en détail, 2024, une élection américaine ?
Oui, avec grand plaisir. 2024, une élection américaine, c'est un projet qui vise à expliquer, à faire comprendre l'élection américaine à tout le monde. À des lycéens, à des personnels de l'université, en fait à tous les gens qui peuvent avoir besoin d'explications sur le sujet. Et comme l'élection américaine, c'est un sujet complexe, c'est un sujet avec des dimensions évidentes et d'autres qui sont un peu plus subtiles, un peu plus cachées, l'idée c'est de s'appuyer sur une base d'étudiants qui sont des étudiants formés, des étudiants qui sortent pour la plupart d'une licence d'anglais, qui sont des étudiants de master, des étudiants qu'on va continuer à former pendant le projet et qui vont être les missionnaires de la bonne parole universitaire pour parler de cette élection américaine d'une manière à la fois accessible, idéalement, et précise. Donc nourrie pas tellement par une approche journalistique, mais par une approche de ce qui s'écrit à l'université, dans les journaux, bref, d'être vraiment des médiateurs, des passeurs d'une connaissance précise.
Est-ce que c'est une élection complexe ?
On peut dire que c'est une élection complexe. C'est une élection complexe parce que c'est une élection mouvementée, et ça c'est vraiment peu dire. C'est une élection dans laquelle on pouvait penser que d'abord Donald Trump ne serait pas le candidat des Républicains. Il est rarissime qu'un ancien président battu se représente. J'ai pas de précédent en tête dans l'histoire moderne. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, Joe Biden, qui ne devait pas se représenter, qui avait plus ou moins laissé entendre qu'il serait président pour un mandat, avait décidé de se représenter, aller vers une défaite annoncée. Et puis cet été, cette espèce de succession incroyable d'événements dans lequel Donald Trump... Enfin, le débat entre Joe Biden et Donald Trump semble donner la victoire à celui-ci, quand on voit un Joe Biden très affaibli par l'âge, incapable de tenir des propos cohérents pendant la durée du débat. Et puis immédiatement après, Trump échappant de justesse de quelques centimètres à une tentative d'assassinat et saisissant le moment pour un geste médiatique stupéfiant, ce moment où il se relève et fait chanter USA, USA à la foule et semble à ce moment-là avoir gagné l'élection, triomphant dans le débat, triomphant dans une sorte d'arène médiatique échappant à la violence. Et immédiatement après, le Parti démocrate se mobilisant par Barack Obama, par Nancy Pelosi, par tous ses cadres pour convaincre enfin Joe Biden d'accepter l'évidence qu'il ne pourra pas battre Donald Trump, convaincant finalement le président de renoncer au profit de Kamala Harris, candidate perçue jusqu'alors comme assez faible, comme ayant raté sa vice-présidence, et qui, malgré cela, va réussir en quelques semaines à rallier l'ensemble du parti, à rallier l'électorat, et il y a deux jours à peine, à avoir un débat face à Donald Trump extrêmement convaincant, qu'il assoit comme une candidate, finalement, peut-être favorite pour gagner cette élection. Alors oui, cette élection, elle est complexe, parce que on n'est certainement pas au bout des rebondissements. Et puis elle est complexe parce que c'est une élection américaine. Et qu'une élection américaine, c'est une élection qui se joue à l'échelle nationale, celle qu'on voit assez bien depuis la France, quand on regarde la carte des États-Unis, quand on parle des États-Unis, mais qui se joue surtout aussi à l'échelle locale. Le scrutin présidentiel est accompagné d'élections locales, qui vont aussi mobiliser les électeurs, c'est-à-dire qu'on va plus se déplacer peut-être en Pennsylvanie, parce qu'il y aura une autre question posée en même temps, un référendum local, ou un gouverneur particulièrement populaire ou impopulaire qu'il s'agira de réélire ou pas. Et finalement, c'est l'agrégat de ces 50 élections locale qui va faire l'élection nationale. Et ça rend d'autant plus compliqué les pronostics et d'autant plus compliqué les analyses, puisque des dimensions locales peuvent parasiter finalement ce qui va se passer à l'échelle nationale.
Alors, quelles vont être les missions de vos étudiants sur ce projet ?
Ils vont tout faire. Moi, je m'assois, je me mets dans un fauteuil, je prends un café, je me dis, bon, allez les petits, au travail. Non, plus sérieusement, en fait, ils vont vraiment faire beaucoup de choses. Ils vont faire beaucoup de choses d'abord parce qu'ils vont être formés. Et ça, c'est là que j'interviens, pour essayer de consolider des choses qui pourraient ne pas être claires pour eux. Ils vont se former et ils vont être formés. Ensuite, eh bien, ils vont jouer plusieurs rôles. Ils vont créer des contenus. Ils vont venir à Radio Campus et ils vont parler à Radio Campus chaque semaine pour expliquer une question. Ils vont créer des vidéos sur la chaîne YouTube de l'Université Bordeaux-Montaigne, des vidéos qui vont être diffusées, là encore, chaque semaine et qui vont éclairer une question, mais sous un angle différent de ce qui sera fait pour la radio. Et puis, ils vont également aller dans les classes du lycée Pape Clément pour aller rencontrer des lycéens et aller leur faire des mini-conférences, répondre à des questions-réponses, être à la fois les ambassadeurs de l'université, mais aussi du projet et de l'élection. Et enfin, ils vont organiser ou m'aider à organiser, aider les collègues qui travaillent avec moi à organiser, différentes rencontres, puisqu'il y a un cycle de conférences à l'université et en dehors, par exemple au lycée Pape Clément le 1er octobre, au cinéma La Lanterne le 12 octobre. Ils vont m'aider à organiser ces conférences, à modérer les propos des intervenants. Bref, ils vont être à la fois les créateurs et les gestionnaires de ce projet-là.
Et tout ça aussi sous le regard de Chloé Chappal.
Oui, alors Chloé Chappal, on est extrêmement content. Je suis extrêmement content qu'elle participe au projet. Chloé Chappal, c'est une illustratrice, c'est une jeune illustratrice qui produit des bandes dessinées dans un registre underground très brillant. Et cette espèce d'underground brillant, il est très décalé par rapport à la bande dessinée de reportage, qui est souvent une bande dessinée qui s'apparente au croquis journalistique, qui est une bande dessinée qui peut être très talentueuse, mais dont l'ambition est souvent donc soit le croquis, soit une forme de réalisme un peu commun, ou en tout cas qui n'attire pas l'attention sur le dessin. Or, ce que fait Chloé Chappal, c'est d'avoir un dessin très particulier. Et donc, il m'a semblé extrêmement pertinent d'avoir une dessinatrice qui accompagne le projet, à la fois pour produire des dessins sur l'élection, mais également pour produire des dessins sur le projet, donc qui va suivre les étudiants, qui va venir aux cours, aux conférences, qui va dessiner tout cela, et donc de dessiner tout cela, mais dans ce registre inattendu, d'un underground sophistiqué, avec des pages complexes. Et donc vraiment, j'ai hâte de voir le résultat.
Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours ?
Au niveau du projet, eh bien, je vais rencontrer les étudiants pour la première fois, des étudiants que j'ai mobilisés, des étudiants que j'ai essayé de recruter, des étudiants à qui j'ai déjà envoyé des messages, mais on va faire connaissance et ils vont peut-être prendre la mesure de l'ampleur de la tâche et de ce qu'ils auront à accomplir. Et puis surtout, on va travailler sur un calendrier, c'est-à-dire les répartir afin que ceux qui ont envie de faire de la vidéo soient sur la vidéo, ceux qui ont envie de faire de la radio soient sur la radio, et ceux qui se sentent plus l'âme d'organisateur puissent précisément occuper ces fonctions, tout en se disant que l'idée, c'est qu'ils occupent plusieurs fonctions au fil du projet. Donc on va aller se rencontrer, on va se répartir la tâche, on va se présenter bien entendu, présenter les collègues qui sont impliqués, et immédiatement après, on va commencer à travailler pour essayer d'aborder les différents aspects de l'élection américaine en se posant des questions. C'est-à-dire finalement identifier les points qui pourraient poser problème ou qui pourraient rendre cette élection opaque, moins compréhensible, plus complexe pour leur public, et essayer de voir comment on peut répondre à ces questions, comment on peut lever des préjugés, comment on peut finalement se débarrasser des clichés sur l'élection et produire quelque chose d'un peu plus satisfaisant sur le plan de la compréhension.
On peut parler de vulgarisation.
Alors, j'aime pas trop le mot de vulgarisation parce que...
Alors, quel terme on pourrait employer ?
Moi, j'aime bien le mot de transmission. Par exemple, quand je parlais de les former, je crois qu'une des opérations essentielles, ça sera de leur parler, de faire le point avec eux sur ce qu'ils savent, et ensuite, immédiatement après, de leur demander s'ils peuvent le réexpliquer à d'autres. Et donc de faire d'eux des gens qui sont capables de transmettre et d'expliquer.
Des passeurs.
Des passeurs, j'aime bien le mot de passeur. Vulgarisation donne l'impression qu'on dégrade un peu le contenu, qu'il faudrait l'adapter, alors que je crois qu'il faut adapter ce contenu par l'enthousiasme, par la précision et puis aussi par la compréhension de à qui on parle. Et comprendre à qui on parle, ce n'est pas abaisser sa propre exigence.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Non, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.
Merci à vous. À bientôt.
À bientôt.
2024, an American election. Une élection américaine. Une chronique réalisée par les étudiants, mais pour tous.
Au second tour des élections présidentielles de 2022, le président sortant Emmanuel Macron gagne avec 58% des voix face à sa rivale Marine Le Pen. Imaginez si le soir des élections, Emmanuel Macron avait eu le même score, mais n'aurait pas été élu. Cela peut paraître fou, et pourtant, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis durant l'élection présidentielle de 2016. La candidate démocrate Hillary Clinton avait obtenu 2,8 millions de voix de plus que son adversaire Donald Trump, mais dotée de 304 grands électeurs contre 227 pour l'ancienne première dame, c'est finalement le milliardaire républicain qui avait pris ses quartiers à la Maison-Blanche. Mais comment cela peut-il être possible ? Qui sont ces grands électeurs et comment le système électoral américain fonctionne-t-il ? C'est le sujet que nous aborderons cette semaine dans cette émission spéciale consacrée aux élections américaines de 2024.
Un scénario où un président est élu avec moins de voix que son rival s'est produit à 5 reprises dans l'histoire, 2 fois depuis l'an 2000. Ce processus électoral complexe est basé sur un suffrage universel indirect avec un tour unique contre 2 en France. Les présidents ne sont pas élus directement par le peuple comme dans l'Hexagone, mais par les États via un collège de 538 grands électeurs chargés de les représenter. On appelle cela le collège électoral. Pour être élu, il faut donc sécuriser la majorité absolue de ces grands électeurs, autrement dit 270. Leurs noms n'apparaissent pas sur les bulletins et ils sont pour la plupart inconnus du grand public. Ils sont eux-mêmes des élus ou des responsables politiques locaux choisis par les partis. Leur mode de désignation peut varier d'un État à l'autre. Ils sont sélectionnés soit lors des conventions des partis d'État, soit par les comités centraux des partis. De ce fait, chaque candidat à la présidence reçoit sa propre liste de noms. Le premier mardi de novembre, les électeurs votent dans chaque État pour choisir leurs grands électeurs. Le choix de ce jour, qui peut paraître anodin, a été fait en fonction des préoccupations des Américains. Vivant dans un environnement rural, il leur fallait plus de temps pour rejoindre les villes. Pour ne pas partir le dimanche, jour de prière et chômé, ils quittaient la ville le lundi pour arriver le mardi sur les lieux de vote. Contrairement à nous en France, où le jour des élections tombe un dimanche, les Américains votent en pleine semaine et sont donc, pour la plupart des travailleurs, obligés de prendre congé sur la journée. Le système de vote étant différent du nôtre, ils peuvent passer plus d'une demi-journée au bureau de vote avec l'afflux massif d'électeurs qui se rendent au district congressionnel, endroit où ils peuvent voter pour leurs grands électeurs.
Chaque État dispose d'autant de grands électeurs que d'élus au Congrès, soit 2 pour le Sénat, additionné au nombre d'élus à la Chambre des représentants. Chaque État est donc doté d'au moins 3 grands électeurs, comme le Wyoming ou l'Alaska pour les moins peuplés, et jusqu'à 40 pour le Texas et 54 pour la Californie. Il est important de noter que l'attribution de ces 538 grands électeurs évolue en fonction de la densité de population. Certains États peuvent donc perdre des voix ou en gagner. Par exemple, le Colorado et la Floride ont gagné une voix de plus depuis 2020, tandis que la Californie, l'Illinois et le Michigan en ont perdu une, déclin démographique oblige. Malgré ces évolutions, les grands électeurs ne valent pas le même nombre de citoyens, car le poids des petits États est, comme au Sénat, biaisé par les 2 grands électeurs d'office. Un grand électeur du Wyoming représente ainsi près de 188 000 habitants, tandis que son homologue de Californie vote pour plus de 722 000 personnes.
Effectivement, certains électeurs peuvent se sentir sous-représentés, voire même abandonnés lors de ces élections. Le jour du scrutin, soit le 5 novembre, les électeurs seront appelés à noircir la case correspondant au candidat à la présidence de leur choix. Dans le fond, l'élection populaire permet en fait de choisir les grands électeurs affiliés à un candidat particulier. Par exemple, si Kamala Harris remporte une majorité des voix en Californie, les 54 grands électeurs de l'État seront ceux qui ont été précédemment sélectionnés par le Parti démocrate. C'est ce qu'on appelle le principe du « winner takes all », le vainqueur emporte la mise en français. Le candidat arrivé en tête remporte la totalité des voix des grands électeurs en jeu. Ce système gomme ainsi toute nuance et augmente le poids d'un candidat, même s'il ne l'emporte qu'avec une marge infime. Par exemple, en 2016, Trump avait raflé les 29 grands électeurs de Floride en ne remportant le duel avec Hillary Clinton que de 1,2 point. Encore mieux, en 2020, les 16 grands électeurs de Géorgie étaient tombés dans l'escarcelle du démocrate Joe Biden avec seulement 0,23 points d'écart sur Donald Trump. Deux États, le Maine et le Nebraska, font exception à la règle car ils fonctionnent selon un système proportionnel. Ils sont cependant beaucoup moins prisés par les candidats à la présidentielle qui s'attardent plutôt sur les États pouvant leur rapporter le plus de grands électeurs.
Ce sont ces fameux « swing states », ou états décisifs en français, qui déterminent le gagnant de l'élection. Ces états, qui sont profondément divisés sur le plan politique, oscillent entre les candidats démocrates et républicains au fil des années. Ce sont des vrais champs de bataille, sur lesquels les prétendants à la Maison-Blanche n'ont pas lésiné sur le nombre de déplacements, de spots publicitaires et la mise en place d'équipes solides sur le terrain. Cette année, on compte 7 swing states qui sont l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. À eux 7, ils comptent 93 grands électeurs. Quant à candidat à la présidentielle, je le rappelle, doit en empocher 270 au sein de son collège électoral pour accéder à la fonction suprême. Dans ces États, chaque voix compte. Mais juste 7 États sur 50 sont décisifs ? Et les voix des autres, alors ? Ils ne garantissent pas la victoire au vote populaire et influent sur la représentativité des électeurs. Actuellement, la majorité des swing states sont plutôt en faveur du Parti démocrate, mais les écarts restent infimes, et tout peut changer durant les prochaines semaines.
Dès le mois de septembre aura lieu le vote anticipé, par correspondance ou dans les lieux dédiés selon les États. Les grands électeurs affiliés à Donald Trump et à Kamala Harris se rassemblent ensuite le 17 décembre dans leurs États respectifs pour voter. Le résultat sera ensuite certifié par le Congrès le 6 janvier 2025 et le futur président ou la future présidente des États-Unis prêtera serment le 20 janvier dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, avant de s'installer à la Maison-Blanche pour un mandat de 4 ans.
À l'instant, c'était une élection américaine 2024, la première chronique d'une série en effet de chroniques que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Campus Bordeaux. Alors Marion, on va bientôt se quitter malheureusement.
Et oui.
It's time to leave.
Exactement, c'est bientôt la fin.
Alors, la suite des programmes sur Radio Campus, c'est tout de suite la 13h des archives, parce qu'on est encore dans notre semaine anniversaire. Donc, comme ça, à 13h, et puis à 16h, et puis à 0h, vous retrouvez comme ça tous les jours des programmes archives de notre belle radio. Que vous dire d'autre ? Eh bien que ces radios sont en danger actuellement, en fait. Donc n'hésitez pas à nous soutenir hein, sur les sites des Radio Campus. En danger, bah oui, parce que le gouvernement a décidé dans sa loi de finances, en fait, de raboter un petit peu notre principale subvention. Donc ça remet en question l'activité des radios associatives qui sont 700 en France aujourd'hui. La suite des programmes, on vous l'a dit, des archives. Et puis ensuite, à 16h, vous trouverez Victor Dancefloor. 17h, La Turbulence, peut-être, peut-être pas. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, à 19h, vous retrouverez « Alors on se fait un film, émission de cinéma ». Et puis, à 20h, « Cheap Meadow » et à 21h, « La classe internationale ». Et on se quitte avec de la musique américaine, Kendrick Lamar et Hood Politics sur Campus. Merci Marion, à demain.
Et merci d'avoir été avec nous. Tell me they got you on some weirdo rap shit, nigga. No socks and skinny jeans and shit. Call me on Shanika's phone. I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. Your own boy, your block that you're from, boo-boo. Little hoes you went to school with, boo-boo. Baby mama and your new bitch, boo-boo. We was in the hood, 14 with the deuce-deuce. 14 years later, going hard like we used to. On the dead homies. On the dead homies. Give a fuck about no politics and rap, my nigga. A little homie's done a deuce, ain't never coming back, my nigga. So you better go hard every time you jump on wax, my nigga. Fuck what they talk about, your shit is where it's at, my nigga. Came in this game, you stuck your fangs in this game. You want no chain in this game, your hood, your name in this game. Now you double up, time to bubble up the bread and huddle up. Stick it to the spritz, now if them Benjamins go cuddle up. Skip, hop, trip, drop, flip, flop with the white tube sock. It go. That's what the products smell like when the chemicals mix. 50 niggas salute out the Compton Zoo with the extras. Elcos, Monte Carlos, Road Kings and dressers. Rip Riders, P-Funkers, Mexicans, they fuck with you. Asians, they fuck with you. Nobody can fuck with you. I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. Your own boy, your block that you're from, boo-boo. Little hoes you went to school with, boo-boo. Baby mama and your new bitch, boo-boo. We was in the hood, 14 with the deuce-deuce. 14 years later, going hard like we used to on the dead homies.
suck. The little homies called and said the enemies just clicked up. Oh yeah, puto wanna squabble with me, patio. Oh yeah, tell them they can run it for the cardio. Oh yeah, everything is scandalous. Slow motion for the ambulance. The project filled with cameras. The LAPD gambling, scrambling. Football numbers slandering. Niggas names on paper, you snitched all summer. Streets don't fail me now. They tell me it's a new gang in town. From Compton to Congress, set tripping all around. Ain't nothing new but a fluid new Democrats and red blood against red state versus a blue state. Which one you governing? They give us guns and drugs, call us thugs, making they promise to fuck with you. No condom, they fuck with you. Obama say what it do.
Obama say what it do.
I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. Your own boy, your block that you're from, boo-boo. Little hoes you went to school with, boo-boo. Baby mama and your new bitch, boo-boo. We was in the hood, 14 with the deuce-deuce. 14 years later, going hard like we used to. On the dead homies. On the dead homies. Everybody wanna talk about who this and who that, who the realest and who whack, or who white and who black. Critics wanna mention that they missed when hip-hop was rapping. Motherfucker, if you did, then Killer Mike could be platinum. Y'all priorities fucked up, but energy and wrong shit. Hennessy and Crown Vic, my memory been gone since. No ask about no camera blocking at award shows. No ask about my bitch, no ask about my foes. Unless you asking me about power, y'all got a lot of it. I'm the only nigga next to Snoop that can push the button. Had the coast on standby, K-Dot, what up, I heard they open. Opened up Pandora's box, I boxed them all in by a landslide. Nah, homie, we too sensitive, it spill out to the streets. I make the call and get the coach involved, the history repeat. But I resolved inside that private hall while sitting down with Jay. He said it's funny how one verse can fuck up the game. I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was. But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one.